Et tout de suite, le voyage radiophonique. Des documentaires sonores francophones, indépendants.
Dieu a une adresse à la Défense. Un documentaire de Julien Baroguel.
À partir de 8 heures, effectivement, il y a du monde qui est dans le métro, la ligne 1 en l'occurrence. Peu de communication, bien sûr, c'est le métro parisien, donc là, c'est pas un lieu d'échange ni un lieu de rencontre, quoique.
Quelque chose d'enfermé sous terre, avec une vie qui grouille.
Qui dégueule à la fois la station l'Esplanade et puis la station de la Grande Arche.
La Défense.
À cette station, descente à gauche.
La Défense.
Cette expérience de la fourmi parmi les fourmis, à la Défense, on l'a fait. Être un parmi des millions, c'est vertigineux. Le mot, c'est ça.
Bienvenue en gare de la Défense. L'ensemble du personnel RATP de la gare vous souhaite une excellente journée.
De voir toutes ces personnes qui sortent du train, là, le train de 8h32 qui arrive à 8h54.
Pardon.
C'est très impressionnant. Tous ces gens qui migrent vers les tours. C'est vraiment, c'est incroyable, il y a des milliers de personnes. Et en fait, se dire, chacune de ces personnes, c'est une vraie personne qui a quitté ses enfants, qui a quitté son petit appart de célibataire ou son palace à Neuilly. Chacune de ces vies est dans le cœur de Jésus.
Je suis chrétien à la Défense. Aujourd'hui, je vais vous voir. Est-ce que vous savez qu'il y a une église à la Défense? Elle est là-bas.
Alors nous sommes sur le parvis de la Défense. En face de nous, il y a la Grande Arche. Juste à droite, le CNIT, ce grand mouvement de béton précontraint de 150 mètres de long, qui est une prouesse architecturale et qui est aujourd'hui le plus vieux bâtiment de la Défense. Et puis juste à droite du CNIT, on devine le petit immeuble Mazar, qui est très réussi, et derrière le grand immeuble Cœur Défense. Et puis quand on regarde à sa gauche, on devine les trois grandes tours de la Cité Générale. Et on continue de tourner et on a tout le grand bâtiment des Quatre Temps, qui est le plus grand centre commercial d'Europe. Et au-dessus des Quatre Temps, on a la grande tour Éclat, qui est la plus haute de la Défense actuellement sur le plan topographique. Et puis en continuant de tourner, on devine la tour d'habitation Défense 2000, la tour W, l'ancienne tour EDF. Puis après, elle s'enchaîne Ariane, Atlantique. Et puis après, ça descend plus bas vers la Seine. Et puis juste à droite du CNIT, on a la grande tour noire d'Areva. Et devant elle, un bâtiment avec un grand mur de verre qui monte à 40 mètres et qui est épais de 70 cm. C'est la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte, qu'on identifie plus particulièrement avec sa croix rouge. Sur la grande vitre de ce bâtiment, il est écrit « Dieu a une adresse à la Défense, maison d'église Notre-Dame de Pentecôte ». Moi, ça fait 6 ans que je travaille ici comme recteur et je suis saisi par le génie des hommes, quoi. Donc là, on s'approche, on monte 3 marches. 3, on aime bien, il y a un côté un peu symbolique chez les chrétiens. Alors là, on rentre. On entre dans la maison d'église. C'est des moments où on prend conscience du silence de ce lieu.
La première fois où je suis venu ici avec Hugues Morel d'Arleux, il m'a dit « Tu entres dans l'univers du jetable ».
Tu entri nell'universo del gettabile.
Alors ça peut être surprenant quand on voit ces tours, on se dit non, on n'est pas dans l'univers, on va pas jeter ça demain. Quindi, mais en réalité, c'est vrai.
Quando uno guarda questi grattacieli, ci si dice non si va a gettare via tutto questo domani, però in vero è vero.
Actuellement se construit celle qui sera la plus grande tour de la Défense.
Attualmente si sta costruendo quello che sarà il più grande grattacielo, la più grande torre della Défense.
Ça sera le siège de Total.
E sarà la sede commerciale di Total.
On sait qu'elle a coûté 1 milliard.
E sappiamo che è costata 1 miliardo di euro.
Sauf que Total a actuellement 3 tours à la Défense.
Tenendo conto che Total ha 3 torri in questo momento alla Défense.
Ah, et que personne ne sait ce qu'on va en faire de ces tours.
E sembrerebbe che nessuno sappia che cosa si farà di queste 3 torri.
Voilà. Donc c'est un monde extrêmement contrasté. On vous a parlé de ces SDF quand même très nombreux qui vivent quelque part dans les parkings ou ces jeunes en déshérence. Et en même temps, on a Total.
E allo stesso tempo c'è un'azienda come Total.
19 miliardi di benefici annunciati ieri.
Che ha annunciato 19 miliardi di euro di beneficio.
Allez, on fait ça depuis I'll get you through this et on enchaîne avec I'll get you through this I'll get you through this if you will only
J'ai des collègues qui, entre midi et deux, vont faire du jogging. Parce qu'ils veulent se déconnecter du travail, ils font du jogging. D'autres vont à la salle de gym. D'autres vont à la piscine. Et puis il y a des gens aussi qui veulent déconnecter et qui viennent à l'église. Juste avant, je suis encore à fond dans mon travail. J'ai peut-être une réunion facile, une réunion difficile. Je dis, bon, allez, il est midi, j'ai bien travaillé, ou mal travaillé. Hein. Je m'en vais, je marche 5 minutes et je viens à la messe. Nous venons rendre visite à un ami qui s'appelle Dieu et qui nous permet de nous ressourcer de façon spirituelle. C'est un besoin qui est important pour moi. Vous savez que Jésus, dans les évangiles, parle beaucoup d'argent. Par exemple, il dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Ou tu choisis Dieu, ou tu choisis l'argent, mais tu ne peux pas être au service des deux. Grosso modo, ce que nous cherchons en tant que chrétiens, c'est que l'économie, la finance, l'argent servent le bien commun. Nous ne travaillons pas seulement pour avoir un salaire, nous ne travaillons pas seulement pour pour payer nos factures, les crédits et tout ça. Nous travaillons pour que le monde soit meilleur.
Lorsque j'ai commencé à travailler en agence de communication, nombre de mes clients habitaient et vivaient et travaillaient dans ces tours de la Défense. Donc la Défense, à ce moment-là, est devenue un lieu de rendez-vous. Très souvent, de rendez-vous en tout début de matinée. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé plus d'une fois de vivre l'esplanade de la Défense très tôt, le matin, alors que ce n'était pas encore la foule qui était arrivée. Et donc, ce petit matin, j'ai vu des aurores à la Défense, le jour se lever. Il s'agissait de prendre l'ascenseur, donc c'était les ascenseurs qui montaient directement au 50e étage et au-delà. Et très étonnamment, la Défense, pour moi, telle que j'en ai gardé la mémoire dans mon corps, c'est vraiment de me tenir droite entre la terre et le ciel. D'être à l'image de cette tour, quelque part. Le sol était de béton, mais le ciel, lui, était ouvert. C'est très étrange. Des hommes ont venu construire ces tours pour travailler ensemble et donc à créer le monde qui nous entoure. Mais ça reste des hommes qui parfois en perdent leur humanité. Je me suis toujours dit, enfermer un week-end un ange dans les tours de la Défense et regarder ce qu'il devient. Ses ailes, sa sensibilité, son sens de l'invisible. Et ben voilà, les hommes et les femmes qui travaillent dans les tours de la Défense, eh bien ce sont des anges eux aussi, et il y a cet étrange environnement qui les transforme. Qu'est-ce que devient l'ange? Soit c'est lui qui sauve la Défense, soit il en perd ses ailes, je sais pas.
Nous sommes dans la partie haute du bâtiment et puis ben, on va préparer ce qu'il faut pour la messe. Donc là on rentre dans la sacristie, donc il y a les vêtements liturgiques, dans une grande penderie où on a les aubes blanches et puis après les chasubles. Donc dans le placard on a les livres qui vont servir pour la messe, hop, hop. Après il y a le micro-cravate, la clé qui va dans le tabernacle. Je vois que là, il y a un papier. Et donc, c'est une famille qui a demandé qu'on prie pour des personnes. Et donc, il m'a donné les noms. Donc, on appelle ça demander une messe. Pour ça, la personne qui demande l'intention prend en charge les frais de la messe. C'est un coût qui est fixé par les évêques de France. Donc, pour toute la France, une messe, actuellement, c'est 18 euros. Hop. Et alors cet argent, il est mis sur le compte de la paroisse. On y met aussi l'argent au cours de la messe. Il va y avoir la quête. Et l'argent de la quête sert au fonctionnement ordinaire de la maison. Ça sert à payer mon traitement. Donc nous, les prêtres, on reçoit chaque mois à peu près 1100 euros net traitement, on appelle ça. Et j'ai un logement de fonction et mes charges sont prises en charge, je puis dire, par la paroisse. Donc j'ai et logement et charges assurées. Ce n'est pas les salaires des PDG de la Défense, mais c'est, voilà, c'est quand même un traitement qui est bien pour vivre ici, dans l'Ouest parisien, quoi.
Hop.
Test, test. Micro. Micro. Micro ?
Oui, ça marche.
Micro, micro ? Ok. Allez, il est midi 30. On y va. Que le Seigneur soit avec nous.
Alors, les particularités principales, c'est que nous, on est dédié pour une population particulière, à savoir les personnes actives à la Défense. Donc, on a dit 180 000, 200 000, 150 000, où en gros, on voit que c'est comme des chiffres importants du nombre de personnes qui travaillent à la Défense et que c'est d'abord pour eux que cette maison a été construite.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Le choix, c'était de faire du contemporain. Donc c'est un bâtiment qui a l'architecture qui ressemble aux autres bâtiments de la Défense. Mais il s'y ressemble tellement qu'il s'y confond. Et donc au milieu de la Défense, on passe devant, on ne sait pas que c'est une église. Alors il y a une croix qui a été mise en valeur en haut de l'escalier. Mais comme à la Défense, vous avez des croix partout. Parce que tout est ligne horizontale et verticale. Toutes les fenêtres sont en forme de croix. En fait, on ne voit pas la croix.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous.
Qu'il y a des gens qui viennent nous voir pour être conseillés. Là, tout à l'heure, vous aviez vu, l'église était complètement pleine. Il y avait encore aussi du monde en bas. Je crois, hein, pour ces hommes et ces femmes, il y a une aspiration à ce que la vie spirituelle, elle soit pas étrangère au travail professionnel, à la rentabilité financière. On a des confidences sur telle entreprise d'énergie qui fait tel choix, sur... telle banque internationale qui est capable d'avaler toutes les banques du monde. Je sais pas, là. On est le témoin de quoi ?
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'on est venus en force. On n'est jamais aussi venus si nombreux avec mes collègues qui sont aussi mes frères et sœurs en Christ.
Amen.
Et ça, c'est une vraie bénédiction de pouvoir échanger, parler, rire, pleurer parfois, se donner de la force et du courage sur le lieu du travail. Et je rends grâce parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus à 7. Et je trouve ça juste extraordinaire.
Moi, je prends l'image, comme je prenais l'image tout à l'heure à Oberon, je disais, c'est comme le portable, on le recharge tous les jours. On vient ici, on se recharge, et la semaine est vraiment... Nous sommes dans la joie. Amen.
Amen. Amen. Merci, Ladislas.
Bonjour à tous. Moi, je vous confie, enfin, j'ai pris un poste il y a 5 mois, et j'ai donc hérité d'une équipe avec 2 personnes qui sont... en surmenage. Pour moi, moi, c'est très difficile à lire. Et j'ai beau lutter, voilà, enfin, en tout cas, faire en sorte de trouver des solutions pour recruter ou pour... voilà, il y a quelques contre-courants. Et ça me touche puisque je ne peux pas rester insensible et voir des personnes presque... Donc c'est assez douloureux pour moi et je te confie ça, Seigneur.
Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix.
Dans le monde de la banque et très vite de la finance, au tout début de la transformation des marchés financiers dans les années 80. J'ai travaillé en fait dans le groupe HSBC, j'ai fait de la négociation obligataire et puis par la suite j'ai fait de la gestion financière. J'ai géré quelquefois des portefeuilles de plus d'un milliard d'euros, voilà ce genre de choses. Donc on achète, on vend et on guette l'information qui va déplacer les marchés, permettre de faire des affaires. À la fin, ton esprit n'est occupé que par ça. Et là, tu te perds un peu. Il a fallu effectivement des tensions dans mon ménage. Il a fallu que je me rende compte à un moment donné que quand je rentrais le soir, mon épouse avait dîné, mes enfants dormaient déjà, pour que ceci me rende à la fin malheureux. Ils me disent, ça ne va pas. Tension dans le couple, des enfants dans lesquels tu es un père aux abonnés absents. Il fallait revoir tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es recroquevillé sur toi-même? Tu t'es refermé sur quoi? Sur un appétit d'estomac, sur un appétit d'une intelligence, d'une reconnaissance, de je sais pas quoi. Mais le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est l'ouverture. Et donc, j'avais besoin d'avouer humblement que ma vie avait été une vie orientée par ma propre satisfaction et quelquefois au détriment des autres, en particulier de mon épouse, en particulier de mes enfants. Et puis à ce moment-là, en fait, j'ai une phrase de l'Évangile qui est arrivée dans mon cœur et qui dit la chose suivante, la vérité te rendra libre. J'ai commencé en fait par l'inscrire sur mon ordinateur et dès que mon ordinateur se mettait en veille, elle arrivait. Et je l'ai eu pendant des années. La vérité te rendra libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Et donc ça tournait dans ma tête en disant, mais j'étais libre avant, libre dans ces transactions, et je n'en étais pas heureux. La vérité te rendra libre. Moi, j'étais dans un bureau, dans un étage élevé, avec vue sur cour. Et le matin, je voyais en fait toutes ces petites fourmis humaines qui sortaient des bouches de métro et qui allaient dans les tours. C'est un monde très paisible. C'est un monde dans lequel les gens vont à leurs occupations. Le soir, ils vont quelquefois prendre un pot ensemble, échanger sur la journée. Et moi, je trouve que c'est un endroit assez merveilleux dans lequel les gens se donnent, en fait, dans un travail. Et puis, à côté de ça, c'est un monde de misère. J'étais frappé, en fait, une fois, lorsque, dans l'immeuble où je suis, on a retrouvé, en fait, une personne que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais de l'entreprise, qui s'était donné la mort. Voilà. Elle avait laissé passer le vendredi et elle s'était donnée la mort. Ces tours sont habitées par des pauvres gens. Des pauvres gens, c'est-à-dire des gens qui sont habités par leur finitude, leur misère. Ça se passe en fait tout en haut des tours, dans les directoires d'entreprise, avec des personnes qui sont souvent en fait en surcharge mentale pour tout un tas de choses, qui peuvent avoir des vies personnelles qui ont été brisées, ou être complètement en fait en dépendance de choses pas terribles qu'ils sont en train de mettre en place.
Je suis chef de projet, j'exerce dans le domaine informatique. C'est un groupe d'assurance à la Défense. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les entreprises ne savent plus trop où elles vont. Elles ont difficulté à avoir une vision sur même le moyen terme. Et donc, il y a une gestion des ressources humaines qui est un petit peu, on va dire, flottante. Voilà, l'entreprise, elle n'est pas vraiment dans la gestion des ressources humaines, en fait. Exemple, voilà, notre directeur, quand il passe sur les plateaux, il ne dit pas bonjour, en fait. Le collectif, aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est difficile, vraiment. On n'arrive pas à faire corps, à faire communion ensemble. Et on peut travailler à côté, mais sans vraiment se rencontrer, faire du lien. Très, très cloisonné, en fait. Après, il y a un confort dans l'entreprise, il y a un bien-être matériel, on a tout l'équipement qu'il faut pour bien travailler sur site et à distance. Et encore une fois, bon, la Défense, c'est un site exceptionnel. Bon, là, c'est vrai qu'on a, voilà, on a une période de transition, on est racheté, donc il y a des personnes qui vont partir. C'est vrai que c'est pas forcément évident comme période. Je suis pas... J'y vais pas à reculons, mais j'y vais pas en sautant des pieds. Voilà, la mission de l'entreprise ne me fait pas lever le matin. Moi, je vous dis, j'ai vraiment le sentiment d'être un boulon inutile, remplaçable facilement, qui n'a pas vraiment de valeur, en fait.
De la sonorisation pour le chemin de croix vendredi sur la dalle.
1, 2, 3.
Ouais, ça marche pas.
Le capitalisme, ça serait quoi? Ça serait que la finalité, c'est de gagner de l'argent. Ou gagner le capital. Ben, j'ai un peu de mal, quoi. Si le capitalisme, c'est le pouvoir de ceux qui ne s'engagent pas et dont les conséquences des décisions ne les atteignent pas.
Moi, j'ai vu des endroits où les activités étaient rentables, mais comme elles n'étaient pas suffisamment rentables, eh bien, on a fermé l'activité, quoi. Et donc, on a mis des hommes, des femmes au chômage et avec elles, des familles entières, quoi. Le symbole du capitalisme, c'est quand même la bourse, quoi. L'argent monte et les valeurs montent et diminuent et on touche des bénéfices en vendant et en acquérant ses actions. On pourrait comprendre le capitalisme comme cela, et si c'est ça, il lui manque une âme, quoi. Mais est-ce que le capitalisme doit avoir une âme? Je sais pas, hein. Moi j'aimerais bien. Il y a quelque chose d'une divinisation de l'argent qui peut marquer les gens et les esprits. Et puis, il y en a qui croient au marché, au sens où le marché, il y a comme une autorégulation dans le marché, il y aura toujours un progrès économique. Si c'est une main invisible qui n'est pas au service de l'homme, dans les traditions, on pourrait dire, alors c'est quoi? C'est une divinité, quoi. Et si c'est une divinité, c'est une idole, et les idoles, il faut les détruire. Hein. Jésus est très clair. Hein. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Malheureux êtes-vous, les riches, parce que vous êtes repus maintenant. Et bien, vous aurez faim. C'est fait vraiment pauvre type, quoi. Pauvre type, vous, les riches. Vous êtes possédés par vos richesses, quoi. Donc voilà, on a ces désolations. Malheureux êtes-vous, les riches, vous qui êtes repus, vous qui riez même. Malheureux êtes-vous qui riez maintenant. Pleurerait. Voilà, je pense qu'il faut l'entendre. C'est celui qui est repu, satisfait. En fait, celui qui dépend de plus personne, quoi. Il y avait une image comme ça pour parler de l'enfer. L'enfer, c'est d'être tout seul. Et pour toujours.
S'il n'y a rien après la mort, la vie perd beaucoup de son sens. Et donc, ça m'est arrivé de dire « Quiconque fait son devoir témoigne de l'éternité. » Quand j'avais dit ça, par exemple, à une réunion du personnel d'une usine, j'ai été invité par les contremaîtres à leur table, ce qui veut dire que les contremaîtres, ils savaient très bien ce que ça veut dire, que celui qui fait son devoir témoigne de l'éternité. Ça les avait vraiment motivés, oui. J'étais... directeur de la branche combustible de Framatome, dans la tour qui est à côté, la tour Fiat. Framatome, c'est une entreprise qui a construit tout le parc nucléaire français. Et quand le parc a été terminé, ce qui était un peu l'époque quand je suis arrivé, vendait des réacteurs nucléaires dans le monde, en Afrique du Sud, en Chine, beaucoup en Chine. Donc c'était la construction de réacteurs nucléaires. Mais en même temps qu'on construisait les réacteurs, on fournissait le combustible nucléaire, c'est-à-dire l'uranium enrichi, conditionné, qui permet la réaction nucléaire, qui fait peur. Et moi, j'étais en charge de la fabrication du combustible nucléaire. Le combustible nucléaire durait 3 ans en réacteur. Et j'ai fait modifier l'alliage de telle façon que le combustible puisse durer 4 ans en réacteur au lieu de 3 ans. Ce qui était une énorme économie pour les électriciens, si vous voulez. Mais en même temps, évidemment, on avait moins de combustible à fabriquer. Et donc, de ce fait-là, j'ai eu des problèmes de réduction de nombre de sites qui étaient humainement des problèmes extrêmement difficiles, qui ont été la grande difficulté de ma carrière. Ben, c'est-à-dire qu'on a moins d'activité, donc on ne peut pas laisser les gens rien faire. Humainement, fermer un site, c'est quand même toujours un dégât. On donnait de l'activité pas seulement au personnel qu'on emploie, mais l'activité induite, en général, c'est un gros problème local. Et puis, bon, dans le cas particulier, la majorité des gens ont dû se déplacer, aller dans une usine qui était plus lointaine. Donc ça leur faisait des trajets qui n'avaient pas jusque-là. Bon, alors bien sûr, on augmentait les salaires. Mais cela dit, par de l'argent, on ne compense pas totalement le changement de vie, qui a priori n'est pas positif. C'est très curieux. J'ai eu à fermer des usines très, très, très différentes. La première usine que j'ai fermée, il y avait 1100 personnes. C'était dans l'imprimerie. Et ben, la situation de marché était telle que tout ce qu'on pouvait faire, c'était reclasser, je crois qu'on a reclassé 200 personnes dans une autre usine. Et ce qui veut dire qu'il y a eu des pré-retraites, mais enfin, il y a bien eu 800 personnes. Et essentiellement, c'était des ouvriers imprimeurs qui se sont retrouvés sur les routes comme routiers. Une opération comme ça, c'était vraiment humainement très difficile. Bon, ça continue à me poser des problèmes. On a la rationalité d'un côté et finalement la survie de l'entreprise. Et de l'autre côté, voilà le mal qu'on fait sur le plan humain. On se pose vraiment la question de savoir est-ce qu'on a vraiment raison ou pas. Alors on discute, on apporte ses arguments. Je continue, si vous voulez, à avoir ma tête d'un côté et mon cœur de l'autre. qui sont pas d'accord. C'est ça qui est terrible. On se demande ce qu'il faut suivre, sa tête ou son cœur. Mais... quand je me présenterai devant Jésus-Christ, je verrai comment il a jugé ce que j'ai fait.
Serviteur de la table de l'Eucharistie, serviteur de la table de la parole, de la table familiale, de la table du travail. Et aussi, serviteur des 100 tables. 100 tables de travail, ceux qui sont au chômage, à la recherche du travail, leur permettent de considérer qu'ils ne sont pas rien pour la société. Ils sont encore attendus. Il est heureux qu'ils soient encore considérés comme des actifs. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le chemin de croix au pied de la maison. Nous ferons un tour sur la dalle et ce chemin de croix se terminera ici.
D'accord, alors je m'appelle Marie, j'ai 45 ans. Je travaille dans un grand groupe bancaire qui est présent sur le parvis de la Défense.
Bonjour à tous. Merci d'être venu. Nous allons pouvoir commencer ce chemin de croix. Je vous demande dans la mesure du possible de vous approcher pour que nous puissions partir ensuite en procession derrière la croix.
Je suis responsable de développement commercial, c'est-à-dire que je suis au cœur de tout ce qui va permettre de monter des prêts immobiliers, de les octroyer et puis de satisfaire le client au mieux au sein de notre établissement bancaire.
Pour ce chemin de croix, j'ai trois consignes pratiques. Première consigne, nous marchons derrière la croix sans la dépasser.
bien faire mon travail. C'est juste ça qui me motive. Et puis apporter sa pierre à l'édifice dans quelque chose qui me dépasse complètement. Parce que une grande boîte du CAC 40, c'est pas la petite responsable de développement commercial qui va faire en sorte que ça se développe. Mais je peux orienter, je peux donner mon avis, je peux faire avancer les choses.
La croix sera portée à tour de rôle par ceux qui le souhaitent. Et ce que je vous demande, c'est lors de la procession, donc quand nous marchons derrière la croix, nous le faisons en silence. Nous sommes un témoignage silencieux derrière cette croix. Merci.
À la fin de tout, il y a quand même le client à qui on va octroyer un prêt. C'est des vies qui, grâce à un travail qui... Aujourd'hui, je fais de l'Excel, je fais du process, on n'a pas l'impression que c'est moi qui donne l'argent. Mais n'empêche que j'aide à ce qu'on donne l'argent de façon sûre et qui convient à tout le monde. Donc ça, c'est beau, c'est chouette.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Je suis persuadée que Jésus est avec moi dans mon travail. Et que ce qu'il attend de moi, c'est que je fasse mon travail. Et que je ramène le salaire à la fin du mois. Et que mon salaire, ce soit un salaire qui soit mérité. Aujourd'hui, moi je suis convaincue que je travaille bien et que ce que je fais, ça plaît à Jésus.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons.
Jésus est condamné à mort. Puis chargé de sa croix.
Jésus, il n'avait pas peur d'être à côté du cambouis, d'être à côté du lépreux. Jésus, il n'avait pas peur. Il y allait, et il allait là où, dans les structures de péché. Le monde, il est devenu tel que nous, en tant qu'individus, on est un peu condamnés à pécher. C'est pas parce que je suis là que je cautionne. En fait, notre monde a sa part d'ombre. On cautionne pas cette part d'ombre, mais on vit avec. Je suis pas contente qu'il y ait... Mais Jésus, il était pas content non plus qu'il ait la lèpre. Si on n'est pas là, on sera où?
Devant les offenses, la violence dans nos organisations, l'isolement induit par les logiques d'individualisation de nos modes de vie et de travail, nous pouvons détourner le regard, nous défausser devant le visage de l'autre qui s'effondre. Soutiens notre conscience, notre présence à nous-mêmes et aux autres pour nous ouvrir toujours au risque d'aimer. Avec Marie, nous te confions les plus touchés par les inégalités et la violence de nos sociétés. Et à sa suite, donne-nous le courage d'être solidaires des douleurs de nos frères et sœurs.
Je sais que ma vie, c'est un balbutiement par rapport à ce qui m'attend. En fait, la fin des temps me fait pas peur. C'est la fin des temps, c'est on est arrivé au but. Et non, moi, la fin des temps, j'ai hâte. J'ai entendu une homélie il y a un an, mais qui m'est restée dans la tête. Je pense qu'elle restera toute ma vie. Qui disait, en fait, on a face à... Faire le bien, va faire le bien, aller en enfer, aller au paradis et tout ça. En fait, on a trois types de personnes. On a les personnes qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire le bien, tout le temps. Et ça, Jésus, par sa résurrection, nous dit, vous avez raison. Moi, j'ai fait le bien et c'est moi qui suis ressuscité. Donc, on n'a pas à se soucier de la fin des temps si on fait le bien. Deuxième catégorie, il y a ceux qui font... qui ont du mal à faire le bien, voire même qui font le mal toute leur vie et qui se tournent au dernier moment vers Jésus. Et là, on a le bon larron sur la croix. avec Jésus qui dit « Dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pas de souci pour eux. Et puis, il y a ceux qui vraiment, 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 vraiment veulent pas. Et là, il faut juste se souvenir d'une des dernières paroles de Jésus qui disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Moi, j'ai pas peur.
Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli. Pour toi la vie surabonde, ô roi de
Dieu a une adresse à la Défense. Un documentaire de Julien Baroguel. Une coproduction du collectif La Disquette et du labo de la RTS, réalisée avec le soutien du Fonds Gulliver. Montage, Julien Baroguel et Giza Numo. Mixage, Jean-Philippe Zvalen. Coordinatrice de production, Camille Dupont-Lahitte. Attachée de production, Garance Parvis. Avec les voix du père Hugues Morel d'Arleux, de Benoît Lafay, Arnaud de Chaise-Martin, Rogelio Esparza, Charlotte Joussaume, Gaëlle de la Fouchardière, Frédéric Sagnas, Jean-Paul Lannegrasse et Marie Brancard-Colombet. Ainsi que des groupes gospel et louanges de la Maison d'Église Notre-Dame de Pentecôte. Merci à toutes les personnes rencontrées lors de ce tournage, à la Maison d'Église, à la Défense et en dehors. Ainsi qu'à Ludo Mepa, Mathias Berger, Pascal Tison, Céline Van Corven et Yamour Gödduman.
Et tout de suite, un second documentaire sonore, francophone, indépendant. Réalisé par Émilie Mousset.
Le visage et les mains par Émilie Mousset.
Oui, je t'entends.
À la chambre mortuaire.
En tant que soignant, j'ai travaillé dans des services de soins palliatifs, de services d'oncologie, où j'ai eu souvent, il y a eu souvent des décès. Quand les corps partaient, on s'en occupait, on leur faisait une toilette mortuaire comme il se doit, et ensuite ils partaient. Et je ne savais pas où, enfin plus ou moins, mais je ne savais pas ce qui se passait après en fait, pour la prise en charge des défunts, et comment ça se passait avec les familles, puisqu'il y a le lien avec les proches. C'est vrai que notre implication était telle et tellement forte et proche de la personne que quand elle partait, il y avait comme une frustration. J'avais envie d'aller jusqu'au bout, en fait, d'accompagner cette personne jusqu'au bout. Donc c'est ce qui m'a amené à chercher un poste en chambre mortuaire, après avoir fait des soins, on va dire, classiques. Oui, l'entre-deux, tout à fait. Quand un défunt est déposé en chambre mortuaire, on est amené à prendre leur identité, et puis à voir quel est l'état général du corps, et notamment visage et mains, pour pouvoir le présenter aux familles. La personne reconnaît les mains de son défunt et reconnaît son visage. Ce sont les deux choses que l'on voit en permanence de tout le monde dans la vie, au quotidien. On ne voit de l'autre que ses mains et son visage. Oui, elle vient de décéder. Comment dire ? J'avais affaire d'un coup à des personnes décédées avec une identité, un nom, un visage, mais je ne savais pas comment elles étaient, quoi, comment elles se comportaient. Le seul moment où j'allais être en lien, enfin confronté à une vraie communication avec des mots et des paroles, c'est avec les proches de cette personne. Je découvrais un peu plus qui elle était et comment fonctionnait cette personne et quels étaient ses souhaits. Notre première mission, c'est de faire en sorte qu'elle soit présentable, propre, avec des yeux fermés, parce que des fois c'est compliqué. Donc on a quelques méthodes de soins pour que les yeux restent fermés, fermer la bouche, ce qui n'est pas évident. Donc là aussi on a quelques techniques pour que la bouche soit fermée. Ensuite, on peut être amené à masser les visages pour les détendre. Parce qu'à force, avec l'habitude, on peut voir des visages très tendus, marqués par peut-être les derniers instants avant que la personne parte, si elle était angoissée ou autre, mais c'est vraiment marqué sur le visage, donc on est amené à masser les visages. Et ça a vraiment un effet, c'est un vrai effet visuellement, on voit que le visage est plus détendu. Les coiffer, et on peut maquiller très légèrement. Ensuite, donc le corps, on le recouvre d'un drap et on ne laisse dépasser que les mains quand on va le présenter, le visage et mains. Et donc, on doit faire en sorte que les mains soient propres. Et pareil, s'il y avait des plaies ou autres à cause des perfs, etc., mettre des pansements, on prend vraiment le temps nécessaire. Et si c'est très long, s'il y a des soins très longs, eh bien, on le prend ce temps. On n'est jamais dans l'urgence comme dans d'autres services. Là, il y avait quelque chose d'apaisant aussi, du coup, dans notre rôle. Oui, des fois, je me mettais, oui, à parler, pourquoi pas, à leur parler, en leur disant que j'allais prendre soin d'elles, que j'allais leur mettre les vêtements que la famille m'avait proposés. Et puis, il m'arrivait des fois de chanter, ouais, quand j'étais seul, le week-end notamment. Je chantais dans ce lieu, pour le plaisir de faire vibrer, vibrer les corps. Peut-être avait encore un soupçon d'âme, je ne sais pas. Prendre soin du défunt, c'est notre première mission hors famille pour faire en sorte que l'image soit la plus juste possible pour le défunt. Et au début, on ne les habite pas, on attend de recevoir les familles. Notre deuxième rôle, c'est de les présenter aux familles pour des recueillements dans une pièce adaptée. Et donc, quand on va chercher les défunts en chambre basse température et qu'on les remonte pour les présenter aux familles, là aussi, c'est un moment super important, en fait, d'accueil déjà pour la famille, les rassurer. Et ensuite les accompagner jusqu'au salon de présentation. Et voir avec les personnes si on les laisse seules. Normalement, c'est ce qu'on fait, on les laisse se recueillir dans la solitude. Mais si les patients sont trop en souffrance et qu'on le sent, on peut leur proposer de rester un peu avec eux. Au début, s'ils ont trop peur de voir le défunt, ce qui arrive. On soigne les morts pour guérir les vivants. À partir du moment connaissance des souhaits de la personne, hein, qui souhaite une cérémonie religieuse ou pas, ou une incinération, etc. Nous, on se doit de faire respecter ses choix. Et les familles, de se rendre compte qu'on prend soin ou de leur père, ou de leur mère, ou de leurs enfants, ça leur fait le plus grand bien. Et ça leur permet de rentrer dans la première phase de deuil. Puisqu'au début, ils sont en sidération, ils ne veulent pas forcément accepter, ou enfin, ils vivent très mal souvent le décès. Tant que la personne est encore là et qu'on peut la voir, il reste énormément de choses. Il reste même beaucoup, beaucoup de choses avant que la personne soit vraiment enterrée ou disparaisse dans les lieux, parce que là, on va dire disparaître. Des fois, on entend même, bon là c'est particulier ce que je vais te dire, mais c'est très organique, mais des fois on entend quand on les habille, qu'on leur fait des soins et qu'on est juste à côté d'eux, on peut entendre des mouvements dans le ventre, tu vois, ça c'est des gaz, etc. Enfin, tu vois, il se passe tout un tas de choses. Mais après, parce que le corps va aller dans la putréfaction, quoi, cette transformation, cette alchimie du corps qui se transforme. Dans les cimetières, la destruction des corps, leur putréfaction, etc., et leur transformation dans la terre dégage des gaz, et qu'à un moment donné, il peut y avoir des petits feux follets qui émanent là de ces corps et qui ressortent, et que l'on peut voir. Après, moi, ce que j'aime effectivement, c'est que ce corps se transforme en petite flamme. Tout à l'heure, on parlait des soins, du soin qu'on peut apporter aux défunts. Là, on peut encore être acteur de quelque chose pour que ce corps soit beau, présentable, serein. Mais ensuite, on n'est absolument plus acteur de rien. Conscience de la situation, à quoi tu fais face, donc un corps, un défunt, un mort, que toi tu es vivant, donc oui, là tu prends bien conscience de ta réalité, de mouvement, de conscience, oui, tu prends conscience de ta vie, vraiment, pleinement, et de ce que tu peux faire, pas faire, ce que tu as envie de faire, d'où l'importance de ne pas cacher la mort, quoi. Il faut la rendre visible, et du coup elle en devient belle. Moi, je trouve que c'est très beau. Je trouve qu'il a une beauté. Ce qui m'a impressionné au début, c'est la densité du corps, en fait. J'avais, je crois, jamais pris conscience de la densité d'un corps humain. J'en ai pris conscience quand j'allais porter avec des collègues pour les déplacer d'un endroit à un autre, pour les habiller ou pour faire les mises en bière. Mais honnêtement, une fois que le corps est à la rigidité cadavérique, ça s'appelle comme ça, c'est hyper dense, lourd, dense, et une vraie matérialité, enfin la matérialité puissante, très très puissante. Toutes ces cellules imbriquées les unes dans les autres qui ont fait ce corps, quoi. Sa lourdeur, sa force, son poids. Et j'ai pris conscience de la puissance de notre corps, en fait. Au travers des corps morts. Et j'ai trouvé cette densité belle. Et moi, j'ai été joyeux souvent. Oui, on peut parler de joie. Et même quand ils sont prêts, habillés et dans les cercueils, il y a eu des moments très forts où certains défunts étaient beaux et rayonnés même. Il y a une vibration, c'est évident. Il y a un rayonnement qui se dégage, ça j'en suis convaincu.
Le visage et les mains, par Émilie Mousset.